Alors un grand merci, j'espère que ma voix va porter, un grand merci à Rav Grunstein et à Madame Grunstein pour leur hospitalité. Un grand merci à Alexandre pour son invitation et un grand merci à vous tous pour votre compagnie, d'autant plus que je suis quand même quelqu'un de sporadiquement présent. Alors merci à tous d'écouter quelque chose qui vous paraîtra peut-être parfois redondé avec des interventions antérieures. En même temps, c'est vrai que la question est probablement un peu nouvelle, la catégorie du féminin. A-t-elle une pertinence pour penser la politique juive en exil? Alors, en guise d'introduction, je vous livre une petite tranche autobiographique qui remercie l'ouvrage de Denis Trom. C'est avant le Covid, j'étais devant l'éventualité, où j'étais quand même venu une fois, qu'Alexandre me demande d'intervenir sur la politique juive en exil. Et du livre de Danny Trom, j'ai d'abord voulu prendre ses réflexions et références sur l'autorité. Bon là, pour le coup, si c'est de ça que je parlais aujourd'hui, j'imagine que vous avez déjà dû en parler pas mal. Mais j'ai fini par laisser tomber ce thème pour celui, à peine présent dans l'ouvrage, de métaphore matrimoniale. Je vous lis en effet les deux passages qui en parlent. Page 211. Entre la Torah et son peuple, Dieu choisit son peuple. Il s'agit du bris des tables par Moïse. Le Midrash Exode Rabba abonde dans le même sens en filant la métaphore matrimoniale. Moïse brise les tables devant tout Israël, et là donc le Midrash est cité, c'est comme un mari qui détruit la Ketouba, le contrat matrimonial, pour que sa femme infidèle ne soit pas condamnée à mort. Moïse préfère briser l'alliance, faire comme si elle n'avait jamais existé, plutôt que de voir le peuple exterminé pour cause d'infidélité. Alors, quant à l'autre point, c'était en fait juste le début d'une note, page 267, la note 13, qui simplement donnait des références déjà sur ce sujet en disant « La métaphore matrimoniale imprègne le Cantique des Cantiques que la tradition attribue à Salomon. Le prophète Osée, parfois aussi Jérémie, brandit la menace du divorce entre Dieu et Israël. » Alors, nous avons fait notre alia en novembre 19, puis le Covid a interrompu le séminaire, alors que j'étais en plein travail sur cette métaphore. En première transformation, j'en avais fait le thème d'un cours pour Bahuri Yeshiva, qui s'intitulait « Posture féminine du Klal vis-à-vis d'Hachem », et nous avions étudié les versets du Pentateuque et des prophètes qui en traitent implicitement pour ce qui est donc du Pentateuque, et explicitement pour ce qui est des prophètes. Puis le confinement a eu raison de ce cours, car les Barourim n'aiment pas Zoom. Alors, deuxième transformation, c'est devenu un Zoom, mais pour un autre public, et sur Shir HaShirim. Moins d'un an plus tard, en février 21, comme la participation à ce cours s'essoufflait depuis la fin du confinement, eh bien, troisième transformation, j'ai commencé à en faire un écrit au contenu encore plus large qui a commencé à intégrer des éléments de Kabbalah. Et ce texte, « Féminité d'Israël », terminé au cours de l'été 21, a mis un an à être pris par une maison d'édition et va donc devenir un livre, Bezrat Hashem, dans quelques mois, par les bons soins d'un arbib ici présent. En l'occurrence, j'ai voulu reprendre ici mon projet initial d'intervention en hommage au livre dont quelques lignes m'ont inspiré tout ce travail métamorphosé. En hommage à un livre érudit, puissamment suggestif, notamment en philosophie politique, et vers lequel je ne cesse de revenir. Je reprends mon travail initial, mais enrichi par ces recours ultérieurs à la Kabbalah. Le moment d'étude va donc me remettre, comme avec les Bahurim, devant deux versets contradictoires d'Isaïe et de Jérémie, au cours d'une première partie que j'intitule « De la féminité d'Israël à la féminité plus précise que lui impose l'exil ». Un moment plus kabbalistique va m'amener dans une deuxième partie à voir dans Pourim et Hanouka deux réactions exiliques féminines. Et je terminerai par une troisième partie sur le Dieu dont nous sommes l'épouse. Mais je suis obligé de commencer par un moment qui n'est ni introductif ni lié au développement annoncé. En même temps, il me permet de mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire de traiter une question en amont portant sur les présupposés et qui serait « La catégorie du féminin a-t-elle une pertinence pour penser quoi que ce soit ?» Ce qui veut dire « pour être utilisée métaphoriquement ». Je pensais me dispenser de ce questionnement au nom de l'hypothèse de travail que représente la métaphore matrimoniale. Mais Alexandre m'a dit que d'une certaine manière, le thème du féminin, et même d'une féminité d'Israël, avait été abordé lors de la dernière séance, notamment lorsque Dan s'y est dit décidément perplexe devant une remarque de Spinoza dans le célèbre passage sur la circoncision comme facteur de la persévérance juive à la fin du chapitre 3 du TTP, devant l'affirmation que, et là on cite Spinoza, enfin traduit par dans leur Bible, les fondements de leur religion efféminent les âmes des Juifs. Et que n'était cette restriction, dit Spinoza, rien ne devrait les empêcher éventuellement, si les circonstances historiques s'y prêtent, de retrouver un État souverain. J'ai été voir le passage dans la traduction Apune, ou Apune si vous préférez. Il traduit fundamenta par principe, animos par cœur, et surtout efféminare par amollir. Alors ça donne les principes de leur religion amollissent leur cœur. On comprend tout de suite que les uns pensent que la traduction n'a rien à voir avec l'interprétation et que d'autres pensent que oui. Celle de Dan, qui est plus de notre temps, car elle fait confiance au signifiant pour signifier, quitte à ce que le lecteur interprète, eh bien, elle profite du fait que les trois termes latins peuvent être directement francisés en fondement, efféminé et âme. Quoique pour efféminé, le verbe soit d'un emploi rare en dehors du participe adjectif. Celle d'Apune se débrouille pour changer les trois termes latins, il faut le faire quand même, au nom du signifié qu'il y voit. À savoir que l'efféminement ou effémination de l'âme dont il est question serait un amollissement de cette vaillance dont le cœur est le siège. La traduction de Dan donne à penser, au risque qu'on soit perplexe, celle d'Apune tranche dans une langue traductrice impérieuse, pour ne pas dire impériale. Ça me rappelle, c'est comme ça qu'on s'exerçait à la version latine et grecque en classe préparatoire, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on nous sommait de traduire, sous peine d'avoir laissé le texte latin parler sans nous. En faisant donc, Apune, comme si la métaphore de l'efféminement était effaçable au profit d'une notion elle-même métaphorique mais plus précise d'amollissement, car elle renvoie à l'idée de mœurs qui ne seraient plus guerrières. Si l'on réfléchit maintenant au rapport causal instauré par Spinoza entre les fondements ou principes du judaïsme et cet efféminement, amollissement des âmes ou des cœurs, on va voir qu'il n'est pas si difficile à établir. Les fondements du judaïsme, c'est qu'Hachem soit notre Dieu et que nous nous en remettions à lui de nos victoires et de nos défaites. Cette posture nous empêche de fanfaronner, excusez le, néologisme, de claironner sur la scène de l'histoire. Elle implique un retrait et une bonne passivité, celle de l'accueil de ce que l'être fait être, qui sont facilement perçus comme féminins. Spinoza aurait même pu appeler cela le fondement ou le principe du judaïsme. C'est peut-être le pluriel qui a incité Apune à préférer dire principe, où l'on pourrait voir plus concrètement nos commandements les plus généraux, ceux qui nous commandent d'avoir des midotes morales, de respect du prochain, de fidélité conjugale, de non-convoitise, ou encore les textes plus tardifs qui ne nous encouragent pas à la politique et qui nous commandent l'étude, laquelle a pour effet la sédentarité. Apune ne profite pas pour autant de cette prolifération du féminin que permet principe au pluriel, car il s'en tient à l'idée que le rapport des Juifs à la guerre et donc à la politique est un rapport de molle passivité. L'oblitération de la métaphore féminine l'amène à ne garder qu'un aspect du féminin. Aspect néanmoins essentiel, puisqu'il correspond bien à ce que j'ai même appelé le fondement du judaïsme, à savoir qu'Hachem soit notre Dieu et que nous nous en remettions à lui de nos victoires et de nos défaites. Il est clair que le judaïsme, un peu comme le stoïcisme, pousse à accueillir le réel plus qu'à faire l'histoire, à préférer une certaine passivité à l'activisme, à croire en Hachem plutôt qu'à croire en nous-mêmes, et à être à la maison plus que dans la rue. Je ne vais pas pour autant me montrer perplexe devant la perplexité de Dan. Je pense que, sachant que j'allais aborder ce thème, il a tenu à me le laisser tout entier, et je l'en remercie. Bien sûr, on pourrait toujours dire qu'une âme efféminée, ça ne veut rien dire, même si un mot psych a écrit « le sexe des âmes », mais pour peu qu'il y ait du sens à parler d'une féminité autre que physique, cette féminité sera bien celle de l'âme ou du cœur. Quand on dit un homme efféminé, c'est bien pour parler d'un éthos et pas seulement d'une apparence corporelle. Erich Smilevitch dit dans Le Corps vivant que l'homme juif est appelé à se féminiser par la vie de famille et l'étude, voire même dès la naissance par la circoncision. Pour la circoncision, il serait très amusant que Spinoza partage sans le dire avec Maïmonide l'idée qu'elle dévirilise et en ce sens effémine. Cela voudrait dire que ce facteur de persévérance, qui est la circoncision, pourrait être en même temps le fondement efféminant qui empêche que la persévérance prenne la forme plus pleinement politique, enfin la plus pleinement politique, d'un retour de la souveraineté. Pour l'étude et la vie de famille, autre point qui figure dans la phrase d'Erich Smilevitch que je viens de vous lire, j'avais commencé le développement de mon livre par l'étude de la Gemara Yoma 71a, qui parle des disciples des sages comme d'un mixte de viril et de féminin. Pour résumer simplement, puisque là ce n'est pas ce qu'on étudie ensemble, les élèves des sages ressemblent aux femmes, autres versions sont assis comme les femmes, et agissent vaillamment comme les hommes. Comme le texte dit qu'ils ressemblent aux femmes sans s'expliquer, Rashi explique cette ressemblance en termes d'humilité et de manque de vigueur, ce qui ne manque pas de plausibilité, vu qu'on parle de personnes intelligentes, conscientes du manque, et dont le mode de vie sédentaire n'a rien de sportif. C'est là qu'on retrouve cette variante « assis comme les femmes ». Ni la Gemara ni Rashi ne précisent quelle vaillance on attribue donc aux élèves des sages. Le Maharsha explicite la lecture qui s'impose. On parle de la vaillance morale qui consiste à surmonter ses pulsions. Ce n'est pas parce que les Talmidei Chachamim étaient en général des hommes qu'on les dit vaillants. Ils le sont comme les hommes, sans avoir la vaillance physique de ceux-ci. On peut se demander si leur féminisation n'est pas autant du côté de ce qui les fait être comme les hommes, sur ce courage moral et donc métaphorique, que du côté de cette sédentarité qui les fait être comme les femmes. Pour terminer ces précautions préliminaires, Si l'on revient plus généralement à la féminité d'Israël, j'ai mis en épigraphe à mon livre la phrase d'une femme, Isabelle Cohen, qui, dans son livre sur Job, parle de « se faire femme à l'image du peuple d'Israël ». Voilà, alors je passe au développement proprement dit. Donc, grand 1, vous inquiétez pas pour la deuxième partie est plus courte que la première et la troisième est encore plus courte. Grand 1, de la féminité d'Israël à la féminité plus précise que lui impose l'exil. Donc, de la féminité d'Israël, ça c'est notre point de départ, qui occupe le principal de cette partie, y compris l'étude de versets annoncés. Et maintenant que la féminité plus précise que lui impose l'exil, ça sera notre point d'arrivée, qui terminera cette partie. Donc j'appelle ça 1A et 1B, si vous voulez. Donc un long 1A. Cette métaphore matrimoniale implique des hauts et des bas. Les hauts correspondant aux situations qui, par hypothèse, ne nous intéressent pas, la souveraineté d'Israël sur sa terre, avec le temple, que ce soit passé ou messianique, alors que les bas correspondent aux exils, à l'exil où nous sommes, même en Eretz. C'est cette métaphore qui fait intervenir le féminin comme nous caractérisant par rapport à Hachem. Partant de là, j'ai posé le couple masculin-féminin comme une réalité plus ontologique qu'humaine, et pas du tout celle de l'actif et du passif, mais celle de l'épanchant et du recevant, ou encore, mais là-dessus vous poserez sûrement des questions plus tard, du premier et du deuxième qui fait qu'il y a un premier, ou pour mieux le dire encore, de l'un devenu premier et du deuxième qui fait que l'un est devenu premier. Ce qui n'empêche pas donc le féminin d'être très actif. Si l'on s'arrêtait à cette seule dualité d'Hachem et d'Israël, tout serait dit, au sens où tout ce que fait Israël serait par hypothèse féminin, notamment sa politique, et que celle-ci soit ou non une politique d'exil. À ce stade, féminin est une catégorie trop large pour caractériser pertinemment la politique juive en exil. Car c'est la même épouse qui reçoit l'époux dans le temple, qui doit son statut de reine sur une nation souveraine à l'exercice des mitzvot, et c'est la même qui, quand elle se met à regarder les dieux des autres, est, comme on va voir, non pas répudiée, mais simplement boudée par son époux, ce qui correspond à l'exil. À défaut de vous faire étudier quelque chose qui assimilerait la politique juive en exil à un féminin spécifique, je veux au moins que ce quelque chose, donc toujours Isaïe, Jérémie, nous fasse voir pourquoi l'exil n'est pas définitif matrimonialement parlant. Ensuite, alors ça sera pour mon 1B et ma deuxième partie, ensuite seulement, j'essayerai de dégager un féminin purement exilique, non pas d'un texte, mais de la théorie kabbalistique des séphirotes. Pour entrer dans le verset d'Isaïe, il faut dédoubler Israël en Knesset Israël, collectif qui constitue l'épouse même d'Hachem, et en Béné Israël, individus qui sont les enfants de ce couple. J'ai le souvenir lointain d'une thèse de Pierre Legendre concernant l'imaginaire politique. La nation serait comme une mère et l'État comme un père. Cela n'empêche pas des anomalies. Par exemple, dit-il, les États-Unis d'Amérique, en répudiant la nation mère britannique, sont comme un père qui jouerait les deux rôles, un État qui assumerait le rôle de nation. La France révolutionnaire, en décapitant son roi, est comme une mère qui, ayant chassé le père, jouerait les deux rôles, une nation qui assumerait le rôle de l'État. Dans le cas d'Israël, il est clair que l'État n'est laissé de côté par la nation mère que parce qu'Hachem occupe déjà la place, en étant son époux. Donc je ne parle pas ici de l'état, de l'actuel état d'Israël, qui est au mieux un dispositif de sauvegarde du peuple juif approprié au monde post-hitlérien, comme vous l'avez très bien montré dans votre livre, donc une sorte de malchut de service, quoi, presque le roi goy de service. J'ai trouvé remarquable la thèse de Rosenzweig, exposée par Danny Trom, page 346 de son livre, qu'une nation mûre, accomplie, comme serait la nation Israël, ne vise pas à être un État. La place du faux éternel, je dirais personnellement du faux universel, est déjà prise par le vrai. Avec cette dernière remarque, on dispose de la structure ternaire, père, mère, enfant, qui régit le début du verset 51 d'Isaïe. Donc j'entre maintenant dans les versets dont vous disposez, je crois. Ko'amar, Hachem, Eze sefer keritut, imechem, asher shilartiha. Donc ainsi a dit Hachem, où est donc ce document de coupure, donc de divorce, de votre mère, comme quoi je l'aurais répudié. Voilà, je me contente, dans Isaïe, je ne m'intéresse qu'à ce début de verset. Ce verset permet de penser la relation entre le nom et Israël au présent et pas seulement au passé. Apparemment, et malgré les apparences, Hachem ne nous a pas répudiés. Quelque chose n'est jamais arrivé. Il est aussi, ce verset, un peu compliqué, puisqu'il combine la métaphore conjugale et la métaphore paternelle. Ici, les Israélites sont interpellés en tant qu'individus comme des enfants redevables à leur mère de l'exil qui leur est promis. La mère, Knesset Israël, c'est le même peuple pris collectivement, à moins de penser que les enfants payeraient ici pour la faute de générations antérieures. Ça arrive ailleurs, mais ici, ça ne semble pas être le cas. Quoi qu'il en soit, une faute est sous-entendue dont on aurait pu imaginer qu'elle entraîne le divorce, c'est-à-dire la rupture de l'engagement mutuel qui s'est joué au Sinaï. Cette faute est toujours l'idolâtrie. Or, celle-ci est censée être l'équivalent d'un adultère vis-à-vis d'Hachem. Il y a de quoi penser que, vu la faute commise, le nom aurait dû nous répudier. Une épouse adultère n'est-elle pas interdite à son époux ? Ce verset devient donc problématique. Il semble nous mettre au défi de produire un acte de divorce qui devrait pourtant bel et bien exister. Il traite cette évidence de fausse évidence. Pourquoi fausse ? On ne peut pas répondre par la distinction mère-enfant pratiquée par ce verset en disant « Votre mère, oui, vous, non. » Parce que si le mariage avait été cassé, ben, les membres individuels de cet ex-Israël ne s'appelleraient même plus israélites. C'est d'ailleurs ce que semble dire Isaïe. Il ne croyait pas que vous êtes quitte de l'engagement mutuel sous prétexte qu'un divorce aurait eu lieu. Vous voudriez dire « Notre mère a été répudiée, donc nous aussi ?» Je vous réponds « Ni elle, ni donc vous. » Ici, les individus pâtissent d'une mesure collective qui ne leur permet pas pour autant de se dire « dégagés ». Et comme le concret d'une collectivité, ce sont les individus qui la composent, les uns ont rejeté Hachem, là où d'autres continuent à l'aimer. On peut même penser que la majorité faute gravement contre lui pour que cette impression d'abandon s'ensuive. Mais certainement pas tous, car ce serait justement le cas improbable où il n'y aurait plus aucun enfant pour rattraper la mère. En revenant sur la mère et les enfants, on a pourtant trouvé un début de réponse. Seule l'unanimité des Israélites est susceptible de mettre un terme à Israël. La majorité ne suffit pas. Reste que l'exil peut bien être ressenti comme une répudiation. D'autres éléments vont nous permettre de mettre ces choses au clair. on va confronter ce début de verset d'Isaïe à Jérémie 3:1. Là, je traduis au fur et à mesure. Les morts, bon, à cause du contexte, il faut comprendre ici, donc dis-leur, en leur disant quoi. Hen, yeshalar ish et ishto, assurément qu'un homme répudie sa femme, vehalcha me ito, vehaita li shacher, et qu'elle s'en aille de lui pour être un autre homme, hayashuv et lehaod, pourrait-il revenir vers elle, c'est-à-dire le premier, pourrait-il, par la suite, après cela, hein, revenir vers elle. Halo chanof techena faaret sahi. Un pays pareil, c'est-à-dire avec de pareilles mœurs, ne se déshonorerait-il pas? Et là, césure dans le pasouk. Jusqu'ici, on avait donc une comparaison, et maintenant, on était dans le comparant, le machal, si vous voulez, et maintenant, on arrive au nimshal, au comparé, qui est toi et moi, moi Hachem et toi Israël. Alors, Ve'at zanit re'im rabim, toi, tu t'es débauché avec de nombreux amants, et là, le plus difficile du pasouk, parce qu'il y a deux traductions contradictoires possibles, Veshov elai neum Hachem, et tu reviendrais vers moi, parole d'Hachem, ou alors, donc reviens vers moi, parole d'Hachem. Alors, d'où vient cette double possibilité de traduction? Donc, soit Hachem dit, et à ce moment-là, ce n'est que le prolongement de la question qui était portée par le Machal, hein, et tu prétendrais revenir vers moi. Soit il dit, alors c'est pas que reviens vers moi soit un impératif, hein, on a chauve et pas chouve. D'ailleurs, si c'était un impératif, on aurait dû avoir chouvi. Non, c'est un infinitif absolu qu'on peut. Donc c'est une question d'interprétation. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire, disons, de cette débauche multiple? Par rapport, voilà, quel est le lien causal entre la débauche multiple et chauve, hein? Soit elle empêche chauve, soit elle permet chauve, tout simplement. Et là, simplement, j'adosse ma lecture à celle du Malbim, hein, à celle des Mefarchim qui vont dire que c'est ici un appel à revenir. Voilà. Effectivement, Malbim met beaucoup de clarté en découpant le verset en une allégation contre Israël et une réponse pour Israël. L'allégation ou problème de la femme divorcée et remariée, hein, qui par conséquent ne pourrait pas revenir à son ancien mari, ne correspond qu'à cette partie du verset qui développe la comparaison. Alors que la suite qui fait retour au comparé, à Israël et Hachem, constitue une réponse, une solution. C'est quoi? C'est que la débauche n'est pas un remariage. Et c'est une débauche dispersée, qui plus est. Quelques mots du Malbim là-dessus. Alors, il cite d'abord, bien sûr, le pasouk. Enfin, il cite sa lecture de Chauve. Aussi, reviens à moi, car je pourrais te reprendre. On veut dire, dit le Malbim, que s'il s'était comporté en renégat en faveur d'une idole particulière, comme tous les peuples de la terre, et s'était attaché à elle, il aurait été impossible de les faire revenir. Fin de citation. Mais donc, voyez que pour lui, ce n'est pas le cas. Tout n'est pas résolu pour autant. On a vu que des amants, cela suffit pour interdire une femme à son époux. On a même parlé de raisonnement a fortiori, l'adultère comme circonstance aggravante. Donc, qu'est-ce que le Malbim a apporté comme solution? D'où la nécessité d'un complément midrashique sur lequel s'appuie en fait le Beit Halevi dans un texte là-dessus. Alors, il s'agit donc d'un Yalkut Shimoni dont vous disposez également sur Deutéronome 31:18. Je rappelle d'abord le pasouk. Ve anochi haster astir panai bayom ahu. Donc moi Hachem, je doublerai le voilement de ma face ce jour-là. Quel jour? Eh bien, celui où Israël devant ses malheurs, dirait « Al-Kien Elohai Bekirbi ». C'est parce qu'il n'y a pas... mon Dieu n'est plus dans mon sein. Al-Kol Ara Asherasa, pour tout le mal qu'il aura fait, « Kifana El Elohim Acherim » en se tournant vers des dieux autres. Bon, ça, c'était le pasouk. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le Midrash pour compléter le commentaire du Malbim dans un sens positif, dans un sens de retour possible. Alors, lisons ce Midrash. « Va anochi astir » c'est un raccourci pour « va anochi aster astir panay ». Il rappelle simplement le pasouk. « Mashal le meler shera bagvira » chez Mevatet Basari Sehad. On peut comparer ça à un roi qui aurait vu sa dame jeter les yeux sur un certain eunuque. Amar Ameler, Eni Mekane Basaris Sheat Mevatet Bo. Alors, le roi lui dit, alors là je me permets une traduction qui va vous paraître fausse à première vue, parce qu'elle s'appuie en fait sur toute une gmara sur la jalousie, qui figure dans le traité Avodah Zara. Donc je traduis comme ceci. Ma jalousie ne va pas à cet eunuque que tu regardes. Chez Enomoïkloum, vu qu'il est impuissant, et là, chez Adgoremet Li, le Arzir Padaï Mimer. Mais... ce que tu entraînes, c'est que je détourne ma face de toi. Je te boude. Car Amar HaKadosh Baruch Hu le Israël, c'est la même chose que le Saint béni soit-il dit à Israël. Eni mikane bavodat elilim, ma jalousie ne va pas, ou plutôt, on peut traduire aussi, je n'ai pas de rapport de rivalité avec. Ici, il faut dire idolâtrie, mais c'est plutôt l'idole d'après la suite. Chez Ena, chez Lachem, une idolâtrie ou une idole qui n'est pas de vous. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qui n'est pas de vous, alors que c'est votre idolâtrie ? Ben oui, c'est, le Beit Halevi rapproche cette expression, chez Ena, chez Lachem, idole qui n'est pas de vous, qui n'est pas votre fin. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Le Beit Halevi rapproche cette expression du Elohim Acherim qu'on a vu dans le Passouk, pour dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire d'autres dieux, des dieux autres, mais un peu comme si en latin on avait Deos alienos, par exemple, au lieu de Deos alios. Pas d'autres dieux, mais les dieux des autres. Quand vous embrassez des dieux, ce sont déjà les dieux des autres. Donc ce ne sont pas vos dieux. Voilà, donc Ve'en batoelet, donc de nouveau impuissance ou inefficacité de l'idole. Et là, chez Atem Gormin, l'île Arzir Panabikem, mais simplement vous entraînez que je détourne ma face de vous. C'est le Esther Panim. Voilà, alors il s'avère finalement que l'exil n'est pas une répudiation, que les dieux des autres sont comparables à des eunuques, que le Esther Panim n'est pas la chose la plus grave qui puisse arriver à Israël. Pour l'instant, le féminin de l'exil est pris dans son échec. L'exil, en effet, est censé avoir pour cause l'idolâtrie, conçue comme un adultère. Mais, donc là, tournant, qui va faire passer à 1b, il risque aussi d'entraîner de l'idolâtrie. L'exil, cette fois, risque d'entraîner, causé par l'idolâtrie, il peut entraîner de l'idolâtrie à travers un zèle excessif vis-à-vis du gardien délégué, de l'État, de l'étang ou de l'Empire. Si l'on succombe devant cet écueil, le Hester Panim de l'exil se prolonge. Voilà donc pour l'étude de Isaïe Jérémie. Et on va passer donc de cet échec dans l'échec que serait justement un Hester Panim prolongé par une sorte d'idolâtrie réitérée, au succès dans l'échec, c'est-à-dire succès dans l'exil, que j'intitule, donc, c'est mon grand B, cette féminité plus précise qu'impose l'exil. Ici, féminin prend un sens en même temps positif, peut-être normatif. Mais notre féminité d'épouse d'Hachem, tout en étant exposée à ce risque, c'est aussi s'en garder en discernant dans la relation avec l'État ou l'Empire entre ce qui demande de la souplesse et ce qui demande de l'intransigeance. La souplesse, c'est pour le cas où l'État interdit ou commande ce qui relève pour la Torah du facultatif, alors que l'intransigeance, c'est pour le cas où l'État commanderait ce que la Torah interdit. Par exemple, un très mauvais exemple parce que c'est vraiment indirectement un commandement, voilà, l'État me commanderait d'écrire Shabbat en allant passer mon agrégation un samedi matin. Très mauvais exemple, mais il m'amusait beaucoup. Bon. Ou alors, interdirait ce que la Torah commande, ça c'est beaucoup plus facile de trouver un bon exemple, c'est interdire la circoncision, par exemple. Grosso modo, la souplesse par discernement correspondrait au cas où cela a du sens de dire « dina de malchuta dina », par exemple un légalisme devant l'impôt, et l'intransigeance par discernement correspondrait au cas où il y a intrusion étatique, notamment dans les issourines, dans les interdits, ou dans des commandements comme celui de la mila, de la circoncision. Donc là, on a réussi déjà à tirer du féminin une dimension politiquement complexe, et qui plus est propre à l'exil. On part en effet de la métaphore matrimoniale et on en applique les conséquences à la relation à ce roi qui n'est pas notre époux et à qui notre époux ne nous a pas confié pour que nous soyons infidèles. Le féminin n'est plus seulement l'être femme de, mais consiste en midot, c'est-à-dire des qualités intellectuelles ou morales identifiable par la tradition. Ici, on a pu repérer au moins la bina comme discernement et la gvura comme intransigeance. En fait, la gvura est une bina dans l'action. Je pense, c'est ça la rigueur. On pourrait dire que la gvura donc, comporte aussi par déduction la dimension de souplesse. Mais nous verrons plus loin deux autres midotes féminines que je ne fais pas intervenir ici, car elle relève d'une kabbale moins intuitive. Il s'agira de Hod et de Malchut. Donc je passe à mon grand 2. Purim et Hanouka, deux réactions exiliques féminines. Ce qui me permet cet intitulé, c'est qu'on vient en 1b de parler du rapport plus courant pour nous à un État qui ne s'attaque pas explicitement à nous comme juifs. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, sa féminité par rapport à Hachem n'empêche pas Israël d'être masculin dans son rapport avec deux choses qu'Hachem nous a données. La Torah, offerte inconditionnellement à notre étude, et la terre, donnée sous condition de la pratique des mitzvot et du rejet de l'idolâtrie. Je pose donc la souveraineté comme posture masculine d'Israël, ce qui renforce le côté féminin de l'exil. Malgré tout, l'État d'Israël, alors, n'entraîne-t-il pas une politique en exil féminine ? Alors, je reprends. Si la politique juive n'est pas seulement féminine, qu'elle est masculine comme souveraineté sur la terre, alors l'existence de l'État d'Israël empêche d'exclure cette dimension masculine de la politique juive en exil, à moins d'adopter l'hypothèse que cette souveraineté est conditionnée à l'aval d'une impérialité de type onusien ou américain, ce qui la rendrait plus précaire. Donc vous voyez que à cette première objection, je réponds de manière très mitigée, très normande, enfin que voilà, l'État d'Israël, c'est plus ou moins masculin hein, comme situation voilà, de galoute, d'exil à laquelle il ne nous soustrait pas. Hein. Alors, deuxième, toujours dans l'objection d'un masculin en exil, on peut aussi concevoir un État israélien qui menacerait la vie juive. Ah, j'ai pas dit la vie juive, j'ai dit la vie juive. Auquel cas, la politique juive en exil deviendrait localement la stratégie de la population juive pratiquante face à cet État, comme n'importe où ailleurs. Donc ici, de nouveau, on aurait, pour parler de politique juive en exil, une scission interne entre un masculin oppresseur et un féminin qui lui résisterait. Alors j'ai dit comme n'importe où ailleurs, si ce n'est que, ce qui serait menacé alors, ce ne serait pas le fait juif dont l'État juif assure par hypothèse la persévérance, mais le fait d'être juif d'une certaine manière. On pourrait parler dans un cas de judéité et dans l'autre de judaïsme. Donc la judéité comme vie juive, ou vie des juifs, et le judaïsme comme vie juive. C'est-à-dire comme, bon, je vais le dire maintenant, j'appelle judéité ce qui nous est commun à beaucoup ici, d'être juif, même si ce point commun est déjà sujet à des débats, alariquement ou pas, adjectivement ou substantivement, comme disait Edgar Morin. Bon. Et j'appelle judaïsme la manière dont nous entendons être juif, hein, quelle que soit l'étiquette dont nous sommes affublés par nous-mêmes ou par les autres. Simplement, être menacé dans son judaïsme par un État concerne plutôt celui qui est Shomer Mitzvot et qui se voit empêché d'en accomplir tel ou tel. J'ai pris conscience en commençant ce travail à l'époque de Hanouka que autant Pourim parle du fait juif à nu, comme à toutes les époques de destruction, manquées ou pas, des juifs, autant Hanouka traite d'une politique juive en exil qui ne consiste pas à intercéder pour empêcher la destruction, mais en cette intransigeance évoquée déjà en 1b, sauf que l'urgence ici rend l'intransigeance d'emblée dramatique et guerrière. Mais la féminité est des deux côtés. Ce n'est pas parce qu'on prend les armes à Hanouka que la politique juive en exil devient masculine. Ce serait confondre Israël, avec deux L, et les hommes israélites qui prennent les armes en son nom. Il serait tout de même intéressant d'avoir une héroïne de Hanouka comme nous en avons une pour Pourim. Mais je ne connais pas d'héroïne dans l'épisode contre les Grecs, ni même qui prennent l'initiative pour défendre la pratique des mitzvot en exil. Yaël et Yehudit, elles sauvent leur peuple, ou une partie de leur peuple, face à un ennemi philistin ou assyrien qui menace sa souveraineté. On a donc un mixte de contexte de souveraineté, Pourim, puisqu'il y a menace, et le seul point commun avec Hanouka, c'est l'intransigeance, à un moment où la collectivité baisse les bras. Alors, pour étayer cette conception complexe et active du féminin, je me suis intéressé aux séphirotes de la Kabbale qui sont considérées comme masculines et comme féminines, selon qu'elles sont surtout épanchantes ou surtout réceptives, et qui correspondent à autant de midot ou qualités. Les quatre midot féminines sont relatives à des midot masculines qui sont au nombre de 6, mais 4 seulement vont nous intéresser. Je laisse déjà de côté Keter, même si ça veut dire couronne. C'est vrai qu'en philosophie politique, c'est... Je vais d'abord relever les midot masculines, un peu pour m'en débarrasser, et en rappelant juste la traduction la plus courante des quatre midot féminines qui en reçoivent un influx. Donc mes phrases ici vont commencer par la mida féminine pour en venir à la mida masculine correspondante. Donc bina, comme c'est déjà, donc l'intelligence déductive, est relative à chorma, qui pénètre la Torah et qui l'enseigne. Mais ce n'est pas notre sujet. Voilà pourquoi j'évacue finalement keter et chorma, même si la bina, au contraire, nous avons dû en parler déjà comme d'une mida féminine importante, même en politique. Deuxièmement, gvura, rigueur, est relative à chesed, qui transige sans discernement. Souplesse de mauvaise aloi. Ce serait, par exemple, la participation au festin d'Assuérus. Donc la forme la moins politique d'une politique juive en exil. Je parle politiquement car le recède est vraiment ce qu'il y a de plus élevé. Ce qui peut en donner ici une vision négative, c'est que séparé de Gvoura, qui est sa limitation propre, il se montre illimité, apeiron, hubris, comme on dit en grec, et c'est aussi qu'on ne l'a pas pris hors exil, où il serait plutôt rayonnement. Troisièmement, Hod. Alors Hod, j'ai emprunté au Rav Joseph Jikatila, auteur de Sha'are Ora, une lecture de Hod en termes de reconnaissance. Donc Hod, reconnaissance, est relative à Netzar, son pendant non exilique, où la victoire, indécence de Netzar à côté d'éternité, a permis la souveraineté. Et enfin, Malhout, le royaume comme accueil de tous les épanchements, est relative à Tiferet et à Yesod, qui sont l'harmonie et la justice. Même si Yesod veut dire fondement, en philosophie politique, le fondement, ce sera la justice. On voit que ces midot masculines, que sont Netzar, Chesed, Tiferet et Yesod, conviennent plutôt à une politique juive hors exil. Une souveraineté rayonnante, harmonieuse et juste. Bien sûr, il reste du masculin en cet exil, c'est l'objet de la double allégeance, puisque nous avons notre double allégeance vis-à-vis du roi en place et vis-à-vis d'Hachem. Mais l'allégeance, c'est nous, elle est féminine. Du coup, le masculin en exil ici n'est pas politique juive, mais politique divine ou politique goy. Somme toute, la politique masculine en exil est réduite à ceci. Le cas de l'État juif en exil mais souverain, s'il n'avait plus besoin d'être un shtatlan ou s'il menaçait le judaïsme de ses ressortissants, et l'opportunisme que j'ai rendu par l'exemple du festin d'Assuérus, s'il est la seule réponse à la répression impériale. J'ai parlé peut-être trop vite en ce qui concerne l'opportunisme ou la souplesse de mauvais aloi, vu qu'il s'agit de cette complaisance pour l'État ou l'Empire qui verse dans l'idolâtrie, pourquoi ne pas y voir simplement les moments de faiblesse de l'épouse d'Hachem? Eh bien, c'est donc ici le moment de bien distinguer la position globalement féminine d'un étang, comme par exemple Israël, qui est l'épouse d'Hachem, et l'évidence que tout étant genré comporte l'ensemble des midot à la fois masculines et féminines. Ce qui nous fait faire un pas de plus par rapport à 1b, où l'on parlait de midot mais exclusivement féminines, pour faire avancer donc la catégorie des féminins. Mais en même temps, nous intéressons aux midot féminines, puisque nous intéressons à la politique juive en exil. Donc, une fois ce pas effectué, nous revenons aux midot féminines, car les midot masculines servent plus souvent hors exil qu'à participer au festin d'Assuérus. Je veux dire simplement que les midot, en fait, masculines ou féminines, ne nous intéressent des deux côtés que dans leur exercice positif. Ce n'est pas là où elles nous font fauter. Alors, les midot féminines sont donc quatre. Premièrement, Bina, l'intelligence qui discerne, si l'on construit le mot sur la préposition ben, entre, qui déduit, si l'on se réfère à sa définition talmudique, comme davar ou tor davar, justement tirer une chose du sein d'une autre, et qui construit, si on construit le mot bina sur le verbe livnot, construire. Deuxièmement, la gvura, la rigueur qui ne transige pas, ou qui sait quand transiger. Troisièmement, hod, la reconnaissance au double sens d'honnêteté, l'aveu du vrai, et de gratitude. Et enfin, malhout, royauté, l'accueil de tous les épanchements. Alors, j'ai retrouvé dans Hod et Malchut une autre manière de traiter de la souplesse. C'est-à-dire qu'avant même d'être critique par Bina et Gvoura, la souplesse résiderait dans Hod, la gratitude, la loyauté pour le pays d'accueil. Tant que c'est le cas. Parce que sinon, Hod redevient fidélité directe à Hachem. Et dans Malchut, on peut voir donc l'accueil comme, à la fois comme vertu et comme risque, puisqu'il est toujours très risqué d'être accueillant, hein, même si l'accueil est une très grande vertu. Être accueillant, je veux dire. Ça m'a frappé qu'Esther, Shtadlanit, soit justement reine, non plus par rapport au roi des rois, mais par rapport à Assuérus. Elle incarne Malchut, un accueil risqué, tout en usant de Bina. Ce mélange de risque moral, c'est risque de fauter, et de vertu, s'appelle, quand le risque de fauter se fait faute, ça s'appelle Avera Lishma, faute, je traduis désintéressé, faute de mieux. Elle faute pour sauver son peuple. J'ai remarqué que les exemples d'Avera Lishma sont féminins. Les filles de Lot couchent avec leur père pour que le fait humain persévère. Mais ce n'est pas politique. Yaël couche avec Sisra pour le tuer et sauver ainsi le peuple juif. Mais le peuple n'est pas en exil. Si bien qu'Esther reste le seul exemple qui nous concerne. Pour récapituler ce grand 2, dans Pourim, Hod et Malchut accueillent le roi humain pour mieux intercéder, non sans Bina. À Hanouka, la Gvoura, Bina pratique, choisit d'être Gvoura intransigeance, mais quand ce n'est ni Pourim ni Hanouka, comme on a vu en 1b, eh bien, la Bina pratique choisit souvent la souplesse et s'associe à Hod et Malchut. Alors je termine par un grand 3, pas très grand. De quel dieu sommes-nous l'épouse boudée? Je vois aucune heure, je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas combien de temps pour les singes. Et donc, ça fait combien pour l'instant? Trois quarts d'heure, ouais. Alors, je tiens à terminer par une mise au point sur ce Dieu d'Israël dont nous sommes l'épouse. Quelles que soient les origines dont il se démarque, d'avoir été un dieu national comme les autres, j'aurai la méthode d'Ivan Segré dans sa souveraineté adamique, encore un beau livre, consistant à s'intéresser à ceux qui, dans la conscience de soi israélite, se démarquent comme fervent émancipateurs et non à ceux qui simplement relèvent d'eux. Je poserai aussi comme principe, appris de Nietzsche et de Bergson, qu'une réalité nouvelle se déguise longtemps dans les habits de l'époque où elle apparaît. Je pose même, plus audacieusement, que les anachronismes que nous commettons en projetant sur le passé des concepts du présent ne sont parfois que des dévoilements de ce que disait déjà, à sa manière, ce passé. Et je dirais, de manière plus générale avec Benjamin, que se faire le porte-parole de quelque chose qui existe comme primitif ou enfant par rapport à nous ne trahit pas son vouloir dire, mais au contraire le traduit dans des termes qui sont messianiques par rapport à lui, c'est-à-dire qui l'aident à s'exprimer, qui disent ce qu'il voulait mais ne pouvait pas dire, comme quand un ami formule mieux que nous ce que nous cherchions à dire. Ces précautions, toutes ces précautions prises, je dirais donc que Yudke Vavke, c'est l'être de l'étang, l'existence de ce qui existe, et que la nouveauté des Hébreux, je traduis des franchisseurs, c'est d'avoir eu l'audace d'en faire leur Dieu. Je vous lis du Daniel Siboni, lecture biblique, page 257, partie sur l'être divin. Ceux pour qui dit-il. Yud-Kevav-Ké est un dieu national spécifique aux Hébreux, ignore l'acte incroyable de diviniser l'être. Fin de citation. Le judaïsme, ce n'est pas l'appropriation de l'universel au sens d'une confiscation. C'est l'engagement d'un collectif particulier à ne diviniser que l'universel, c'est-à-dire l'être et non l'étant, car diviniser l'étant, même dans son ensemble, l'univers, ce serait figer l'être dans sa forme présente et donc encore de l'idolâtrie. Je ne dirai donc pas, comme j'ai lu page 51 de votre livre, il est l'unique Dieu, donc le Dieu de tous, de toutes les nations, et pourtant, il a choisi son peuple de sorte qu'il s'en soucie de manière singulière. Je dirais que c'est parce que ce peuple l'a choisi, a fait ce choix de l'être comme Dieu, que l'être le lui rend bien, en se manifestant dans toute la splendeur de la conscience qu'on en a pris. Comme Hachem à la fin du livre de Job. Il se manifeste comme le soleil qui peut suivre la pluie, comme le passé, preuve de ce que peut être l'avenir, comme l'avenir effaçant le présent, par-delà donc la manifestation au présent, sa manifestation d'être au présent. Là-dessus, je cite la suite du texte de Daniel Siboni. Quand d'autres que les Hébreux font parler ce Dieu, le seul trait qu'ils lui ajoutent, c'est qu'ils sont, eux, universels. Par exemple, très nombreux. Je vous laisse savourer. On pourrait objecter tous les cas où il est clair que le texte ou sa lecture traditionnelle restreint le prochain aux frères juifs, mais j'y vois les traces d'un autre aspect des choses, d'une législation destinée à forger un peuple. Avec Rousseau, on peut considérer que le succès d'une telle construction passe par la méfiance pour une religion non politique qui irait droit à l'humanité en général. Un tel Dieu n'a pas à faire la preuve de son efficacité. On peut même en attendre les pires événements. C'est la leçon du livre de Job et de la destruction des Juifs d'Europe. Sans risquer de poser des questions que j'éviterai de qualifier concernant son existence, sa toute-puissance ou sa bonté. Certes, on comprend en quoi, pour Nietzsche et pour Freud, la culpabilité peut être un dispositif de mise à l'abri de l'alliance contre l'évidence de la défaite, comme il est dit, page 52. Mais j'ajouterai, parce que c'était bien sûr très vrai aussi, j'ajouterai que la maturité met l'alliance à l'abri, au-dessus de l'aléa de la victoire et de la défaite, et que c'est ça, rester juif à notre époque. Pas seulement être juif comme objet pour l'historien. Alors j'aurais volontiers terminé sur ces mots, mais une conclusion récapitulative s'impose pour répondre à la question posée. La partie zéro nous a permis de penser une féminité d'Israël comme retrait vis-à-vis de l'histoire, qui fait que même la souveraineté juive n'est que l'usage des midotes masculines par l'épouse d'Hachem. La partie 1 nous a permis de penser l'exil comme bouderie et non comme répudiation de la part d'Hachem, et de passer d'un échec du féminin comme être femme de à une vigilance du féminin comme midote. La partie 2 nous a permis de subdiviser cette vigilance selon qu'il y a situation d'urgence ou non. Si l'urgence concerne le judaïsme, Hanouka, le féminin est intransigeance, Gvura Shebegvura, ou Hod Bashem. Si elle concerne la judéité, Purim, le féminin est intercession, Shtadlanout, première forme de souplesse. Il utilise les ressources de Bina et des Midot, et les Midot d'accueil, que sont Hod et Malhout. Et s'il n'y a pas d'urgence, en fait, on retrouve un B, on retrouve intransigeance et souplesse en fonction du contexte, mais la souplesse résulte ici d'une critique préalable concluant qu'il y a lieu de transiger. Ça serait Hod chez Bigvura. La partie 3, enfin, nous a permis de penser un mariage avec Hachem pour le meilleur, mais aussi pour le pire, et qui sait tirer le meilleur du pire. Merci à tous.
Alors maintenant, on passe aux questions.